Bonjour à tous et cette chanson est bienvenue en ce jour de 4 novembre et pour nous rappeler l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin.
Il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, tout juste. Au micro, Sylvie Ligi, qui a le plaisir aujourd'hui de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et J-Call. Alors, la plus importante organisation juive internationale, c'est l'OSM, Organisation Sioniste Mondiale. L'OSM, et non l'OMS, comme je me trompe toujours, il ne faut pas confondre, bien qu'elle s'occupe aussi de questions de santé, l'OSM a pour vocation d'œuvrer pour la défense de l'identité juive et de participer au soutien économique et politique d'Israël. Le Congrès sioniste mondial, qui a été créé par Theodor Herzl en 1897, est son autorité législative, son parlement en quelque sorte. Sont élus des citoyens juifs issus de communautés du monde entier et également des citoyens israéliens. Le Congrès sioniste mondial, le dernier en date, s'est réuni la semaine dernière à Jérusalem et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un élu de la délégation française qui était présent au Congrès et qui a suivi de près les débats. Ilan Rosenkier, bonjour.
Bonjour Sylvie.
Ilan, vous êtes également président du mouvement La Paix Maintenant à Paris, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous allez nous parler de ce congrès. Donc d'abord, il faut rappeler peut-être qu'en France, à la fin du mois d'août, un certain nombre de nos auditeurs et d'autres qui ne nous écoutent pas pour le moment, ont voté pour élire leurs délégués à ce congrès.
Tout à fait.
Quels ont été les résultats du vote français, en tous les cas, dans le contexte international, c'est-à-dire par rapport aux autres pays?
Alors, il faut rappeler tout d'abord que pour la première fois, il y a eu véritablement des élections en France, c'est-à-dire que ceux qui s'étaient inscrits sur les différentes listes électorales et qui ont participé à ce vote ont pu voter, alors que lors des précédents congrès, là, il s'agissait du 39e congrès, lors des précédents congrès, il y avait des accords entre les appareils qui répartissaient les postes en fonction du rapport de force tel qu'il pouvait être évalué.
C'est pour la France.
Là, c'était pour la France et pour de très nombreux pays. Ça s'est encore fait dans un certain nombre de pays où, au niveau local, où il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'élection, mais qu'il y aurait des accords. Donc, c'était le cas pour la France dans le passé. Là, pour la première fois, il y a eu des élections et grâce à une campagne dynamique, la liste sionisme démocratique qui a été dirigée avec ténacité et persévérance par Galit Babo a remporté 4 sièges, c'est-à-dire le double du nombre de sièges qui étaient impartis au camp qu'on représentait lors des élections précédentes. Et c'est devenu la deuxième liste, puisque la première liste a été celle des orthodoxes qui ont remporté le plus de sièges. Et la deuxième liste a été donc la liste du sionisme démocratique que nous représentons, à laquelle je suis non pas membre élu, mais suppléant, mais ce n'est pas fondamental à ce stade. Et c'est la deuxième liste qui a obtenu le plus de voix.
Ah, plus que celle du Likoud.
Plus que celle du Likoud qui n'a obtenu qu'un siège, plus que celle de Mizrahi qui a obtenu qu'un siège. Et voilà, donc tout en étant minoritaire, c'est quand même un succès et ça montre que les positions du sionisme démocratique, du sionisme ouvert, du sionisme qui n'est pas un sionisme conquérant ou oppresseur, a des partisans en France qu'il s'agit de mobiliser de façon à faire vivre cette liste et que ce succès soit confirmé lors du prochain congrès.
Voilà, alors, donc là, on peut s'en réjouir. On s'en réjouit avec vous. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, donc à Jérusalem, au moment du congrès, quand vous étiez dans cette assemblée, ce courant démocratique, il représente quel poids par rapport aux autres courants?
Alors, ce courant est bien entendu minoritaire au niveau mondial comme il est en France. Là, ce qui s'est passé, c'est que déjà, dans un premier temps, il y a eu une rencontre de tous les délégués du sionisme démocratique, du sionisme progressiste tel qu'il s'appelait, où pendant deux jours, il y a eu des rencontres entre les délégués des différents pays, ce qui a permis de se connaître et de travailler sur les résolutions qui allaient être soumises au vote du Congrès, qui s'est réuni le 28 et 29 octobre à Jérusalem. La rencontre que nous avons eue au titre du sionisme démocratique s'est déroulée d'une part, on est descendu dans le sud du pays, à Nova, à Niroz, on a vu de nos yeux donc, ce qui s'était passé, et entendu des témoignages et à la fois les vestiges et le début de la reconstruction. Et puis après, nous sommes montés sur Jérusalem pour participer au congrès où la majorité est détenue par les orthodoxes qui ont voté en masse pour leur liste. Mais il y a des coalitions qui se sont faites. Et donc, la coalition qui s'est faite entre les différents partis, à la fois de droite, de gauche et sionisme religieux, a d'une part écarté ce qu'on appelle Eretz HaKodesh, c'est-à-dire les ultra-orthodoxes qui ne faisaient pas partie de la coalition qui allait déterminer la répartition des postes et la direction des grandes institutions, de même que Otzma Yehudit de Ben Gvir a été exclu donc de cette répartition et sont en dehors de l'accord sur lequel on reviendra parce que cet accord a été remis en question pour des raisons qu'on va aborder tout à l'heure, je suppose.
Voilà, et le Likoud
Alors, le Likoud au niveau mondial est plus fort, bien sûr, qu'il ne l'a été en France, où sa défaite a été un peu une surprise. Pour lui, sans doute, mais pour également ses adversaires. Mais la coalition gouvernementale, entre guillemets, dans laquelle fait partie le Likoud, a participé à cet accord. Il y a eu des désaccords à l'intérieur du Likoud qui ont permis justement la mise à l'écart des orthodoxes, des ultra-orthodoxes et de Otzma Yehudit, donc du pouvoir juif, grâce un petit peu à ces divisions internes.
Ah oui, donc c'est pas homogène, quoi.
Non, il s'agit d'une coalition qui comprend, y compris sionisme religieux, le camp libéral avec Yesh Atid, la coalition gouvernementale, c'est donc quelque chose de fédérateur, entre guillemets, puisque il faut bien que le peuple juif arrive à s'unifier, du moins à s'unir pour pouvoir travailler ensemble. Et donc, ils font partie de cette coalition, sachant donc, en deux mots, on en dira après, cet accord qui avait été conclu à la veille du début du congrès a volé en éclats lorsqu'il a été question, on en a parlé ici, que le fils du premier ministre, Yair Netanyahou, ait un poste important de diriger un des départements de cette organisation, ce qui n'était pas prévu. Et à partir de là, l'accord qui avait été conclu a été remis en question et il est toujours en négociation.
Ah, on ne sait pas encore ce qui va se passer.
Alors, c'est la surprise du jour. En Israël, il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des surprises, que ce soit dans le domaine politique, les grandes affaires, l'histoire de... La procureure juridique du gouvernement, la procureure militaire, le scandale qui touche la Histadrut et un certain nombre d'élus de collectivités locales qui, fait du hasard sans doute, appartiennent tous au Likoud. Donc l'autre surprise, c'est qu'effectivement, à la suite de la remise en cause de cet accord, un vote devait se faire, qui devait se terminer ce matin. Et il a été décidé de le prolonger et pour des raisons de tactique électorale gérées par les orthodoxes qu'ils avaient déjà eu l'occasion on y reviendra, d'utiliser pendant le congrès, puisque sur un vote important, ils sont sortis de la salle de façon organisée, de façon à ce qu'il n'y ait pas le quorum pour mettre en échec une décision qui allait être prise recommandant la non-construction de colonies dans la zone 1.
Alors justement, je voulais vous interroger là-dessus. Le Congrès donc est là pour voter des résolutions, à voter des budgets. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces résolutions et en particulier de celles dont vous venez de parler, la construction pour une réinstallation à Gaza? Comment ça marche?
Alors, dans le cadre du Congrès, les différentes délégations proposent des résolutions, qui sont soumises au vote. La répartition du budget ne relève pas du Congrès lui-même. On ne vote pas sur des montants financiers, on vote sur des orientations ou des décisions de caractère général ou politique. Et donc, parmi les résolutions qui ont été présentées, d'une part, quelque chose d'important, ça a été la reconnaissance d'un judaïsme humaniste comme étant un des courants de pensée légitimes dans le cadre du peuple juif, dans le cadre de l'organisation sioniste mondiale. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et c'est quelque chose qui lui donne une légitimité et qui va lui permettre de pouvoir bénéficier d'une assise, une reconnaissance, et donc de pouvoir bénéficier des financements qui lui permettront d'exister, de développer ses activités.
La liste sionisme démocratique en fait partie.
Sionisme démocratique en fait partie, mais façon
d'autres aussi. C'est plus large.
Voilà. Maintenant, parmi les certaines résolutions qui ont été présentées, il y en a qui sont d'ordre, enfin non pas d'ordre général, mais qui concernent pas des questions directement politiques concernant les constructions dans les territoires. Par exemple, il a été demandé, le Congrès a décidé de recommander au gouvernement israélien d'assurer la protection des communautés libérales en Israël de façon à ce qu'elles puissent avoir leurs activités, leur culte. Bon, on sait que les communautés libérales sont soumises parfois à des attaques, voire à des agressions, à des insultes, à des limitations de différents ordres pour exister en Israël et pour pouvoir se développer. Et donc là, dans la reconnaissance du pluralisme du peuple juif, l'Assemblée a décidé de recommander au gouvernement de prendre les mesures pour assurer la protection de ces communautés libérales, ce qui est quelque chose d'important. Autre chose qui est très importante, c'est que l'Assemblée a demandé au gouvernement de ne pas taxer le financement que reçoivent de l'étranger les associations de la société civile.
Ah oui, c'est cette fameuse loi sur mettre un impôt, fiscaliser les dons par l'étranger pour soutenir la reconstruction à Nir-Oz, par exemple, ou des choses comme ça, des ONG.
Des ONG de la vie civile, certaines concernent les droits de l'homme et la protection de minorités, des femmes battues, voire d'assurer l'égalité entre juifs et arabes. D'autres concernent d'autres sujets. Et le gouvernement avait l'intention de présenter un projet qui visait à taxer à 80%.
80, c'est beaucoup, quand même.
C'est énorme, bien entendu. Et également que les associations dont la majorité de leur financement proviendrait de l'étranger n'auraient pas la possibilité de saisir les tribunaux pour contester certaines décisions ou certaines orientations prises par le gouvernement israélien. Donc là, il a été décidé d'appeler le gouvernement à ne pas mettre en pratique cette révolution. Et au cas où ça serait le cas, l'Organisation sioniste mondiale assurerait une aide, apporterait une aide à ces associations qui seraient lésées par une telle juridiction si elle était mise en pratique. Donc, c'est pas simplement un vœu pieux, une recommandation d'ordre général, mais
c'est un vrai
engagement d'apporter un soutien au cas où ça ne serait pas le cas. Et puis, concernant les sujets plus sensibles, cette Assemblée a voté une résolution de ne pas financer de colonies, de nouvelles, de reconstruire des colonies à Gaza. C'est pas des nouvelles colonies puisque ça fait longtemps qu'il n'y en avait plus, mais donc de s'opposer à la construction de colonies à Gaza. Et il y avait un projet concernant, là aussi, la zone E1, cette zone en Cisjordanie, qui, grosso modo, pour faire simple, couperait le territoire palestinien en deux, l'éventuel territoire palestinien d'un futur État, et donc réduirait quasiment à néant les possibilités d'un État palestinien, puisqu'il y a déjà le problème de la coordination entre Gaza et la Cisjordanie. Mm-hmm. Et si la Cisjordanie elle-même est séparée en deux parties avec une zone juive au milieu, ça rend extrêmement difficile, voire impossible, l'établissement futur d'un État palestinien. C'est pour ça qu'il y a un gros enjeu autour de cette décision. Et là, les religieux, donc, voyant qu'un certain nombre de décisions progressistes, dirais-je, passaient majoritairement, ont décidé de sortir avant le vote et pour empêcher le quorum. Et donc,
Ça n'a pas été voté ?
Ça n'a pas été voté. Il y a un appel qui a été fait devant les instances, l'avocat qui est chargé de valider ces décisions. Et on attend la réponse de l'avocat pour savoir si effectivement il y a quorum ou pas quorum, puisque certains disent que le quorum a été atteint au niveau des votants par rapport aux gens qui étaient présents, ou est-ce que c'est par rapport aux inscrits ? Voilà, donc il y a quelques arguties juridiques qui doivent être tranchées par le tribunal interne. Et donc, ce qui s'est passé, c'est cette même technique qui vient d'être mise en jeu par, cette fois un peu plus large, pas seulement les orthodoxes, mais plus largement, suite à la dénonciation de l'accord, une fois qu'on a appris que Yair Netanyahou devait recevoir ce poste qui est important, c'est les relations avec la diaspora, la communication.
La communication et les relations
avec la diaspora de la part de quelqu'un qui a passé la guerre à Miami. Ce n'est pas simplement le fait qu'il soit le fils de son père, mais c'est les positions qu'il a prises, son comportement, qui, aux yeux du camp libéral, que ce soit de Yesh Atid, que ce soit, bien entendu, de Yair Golan, des démocrates, le rend absolument illégitime pour occuper ce poste. À partir de là, il y a eu dénonciation de l'accord et de nouveau, donc, des négociations qui sont engagées pour aboutir à un nouvel accord. Le gouvernement est intervenu pour essayer de repousser le vote, ce qui a été refusé. Et donc, dans la
liste... Le gouvernement israélien est intervenu...
Bibi est intervenu par personne interposée pour essayer d'obtenir le report du vote, puisqu'il avait favorisé l'élection de Miki Zohar à la tête, en principe, de l'Organisation sioniste mondiale, à la place de Hagoel, qui était le président actuel. Donc, en contrepartie de ce soutien, Miki Zohar a essayé d'attribuer ce département à Bibi Netanyahou.
Rappelez-nous qui est Miki Zohar.
Miki Zohar est ministre de la culture ou de l'inculture, comme certains l'appellent, au titre du Likoud dans la coalition actuelle. Et donc, il y a un nouvel accord qui a été en négociation, qui a plus ou moins été conclu, qui impliquait une nouvelle répartition des cartes, empêchait que Yair Netanyahou reçoivent ce poste-là. Et au moment où donc on devait voter jusqu'à ce matin sur ce nouvel accord, et là, les religieux, les orthodoxes, y compris Chasse, ont donné comme instruction de ne pas participer au vote pour essayer de réitérer leur exercice de façon à ce que le quorum ne soit pas atteint. Le quorum, malgré tout, semble-t-il, a été atteint. Et donc, ce matin, je pensais venir devant vous en disant pouvoir développer quel était l'accord qui avait été conclu. Et ce matin, il a été décidé de prolonger, voyant que le quorum était atteint. Ils ont obtenu que le vote soit prolongé d'une journée, de façon à leur permettre de mobiliser le maximum de votants et d'avoir des négociations en coulisses, de façon à faire tomber cet accord, mais cette fois par un vote qui, serait négatif et non pas par un vote qui serait illégitimé, dirais-je, du fait qu'il n'y a pas eu le quorum. Donc, c'est demain qu'on saura ce qu'il en
est. Alors, pour conclure, je voulais vous demander, en fait, ce qui vous a particulièrement... C'est la première fois que vous participez à...
C'est la première fois que je participe à ce congrès, voilà, donc c'est également la dernière.
Ah bon? Alors, justement, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement dans cette expérience? C'est une expérience, quand même.
C'est une expérience. C'est toujours intéressant de voir comment un congrès se développe, le travail de préparation de commission, l'énorme organisation que ça représente sur le plan logistique, avec la répartition des salles, les votes, les informations, le travail en commission. Là, ça a été évidemment la possibilité de rencontrer, de découvrir des gens qui, certes, étaient sur nos positions, mais qu'on ne connaissait pas parce que à l'autre bout du monde, de rencontrer des gens qui ne faisaient pas partie de notre liste, mais qui, avec qui il y a la possibilité d'échanger, de discuter, même s'il n'y a pas d'accord, mais en tous les cas, une qualité d'écoute et de discussion qu'on ne retrouve pas toujours dans la société israélienne. Expérience qu'on a connue, puisqu'on a eu... Il y a eu une petite marche qui avait été organisée pour la paix à partir du siège du Congrès vers la Knesset.
C'est merveilleux tout ça.
Et il y a un moment où...
Et l'espoir n'est pas perdu, donc, du coup.
L'espoir perdu, mais à un moment, on est passé devant un groupe de personnes qui siégeaient en tant que proches ou familles de soldats disparus. Et quand ils ont vu le mot « peace », ça les a fait exploser, non pas de joie, mais d'insultes, de bousculades, etc. On a été qualifiés de crêts.
Je comprends vraiment que c'est une expérience qu'on n'oublie pas.
Le lendemain, on est passé au même endroit, il y avait d'autres gens, et ça a été une toute autre ambiance, avec une qualité d'écoute, d'échange. Donc, au même endroit, les mêmes lieux, les insultes d'un côté, l'écoute et la tolérance de l'autre, c'est la société israélienne.
Ilan, merci beaucoup pour ce passionnant compte-rendu, et gardons espoir alors.
Voilà, et donc, merci. Affaire à suivre, en fonction de l'accord.